Bonsoir à tous. Oh. C'est le son parce qu'il paraît que je parle fort. Quand on regarde le monde, on regarde toujours selon une certaine perspective. Et dans nos perspectives, bien, on analyse en plus avec nos expériences à nous, et là, on tente de donner un sens à notre vie, un sens à ce qui nous entoure. Et il y a beaucoup de perspectives dans le monde, en passant par l'islam, le bouddhisme, le christianisme, même les athées qui ont une vision du monde. Et quand vient le temps de toucher les questions importantes, on va toujours essayer de trouver une réponse en fonction de ce que l'on croit ou ce qu'on aimerait croire. Et la question la plus difficile qui vient, c'est la question de la souffrance. Et même que ceux qui étudient les religions pensent que la question de la souffrance a donné naissance aux religions. Beaucoup de livres, beaucoup d'articles de spécialistes de religions qui nous disent, dans le fond, les religions existent parce qu'ils veulent donner un sens à la souffrance et à la mort. Et même un philosophe qui a dit l'existence même de la philosophie, c'est de donner un sens à la mort. En fait, c'est ce qui semble faire qu'on est humain. Et le christianisme n'est pas indifférent. Et à la question pourquoi, la Bible traite de façon directe, de façon différente, le problème de la souffrance. On n'a pas un livre qui nous dit dans la Bible « Pourquoi je souffre? » Et voilà, la réponse c'est 22. Ou c'est telle chose. Ou c'est ce que j'aimerais entendre. Mais on voit plutôt que le sujet est traité de diverses façons, d'une façon qu'on le vit nous-mêmes, qu'on est capable de le vivre. Et là, il y a plusieurs personnes qui viennent nous enseigner sur la souffrance. Et dans le milieu chrétien, et là, il y a plusieurs théories et façons d'expliquer la souffrance. Et là, ben, par exemple, il y en a qui vont nous dire que, dans le fond, la souffrance, c'est une illusion. C'est un petit peu un dérivé du bouddhisme, là. Le bouddhisme, pour eux, la souffrance, c'est une illusion qu'il faut renier. Et puis, bon, ils ont tout un protocole, là, qui fait 300 pages, là, de choses à faire. Mais, dans le christianisme aussi, on a pris une partie de ça. Souvent, on va nous dire, c'est pas vraiment, tu sais, puis faut que tu regardes au-delà de ça. Et là, on essaie de réconforter les gens avec ça. Bon, je ne sais pas si ça marche, là, mais... ou encore, on va nous dire, si vous avez assez de foi, vous allez guérir. Parce que la guérison, c'est l'ultime but. Et je parlais hier à des personnes, puis je disais, on voit ça souvent dans les milieux charismatiques, tu sais, si tu as un manque de foi, tu sais, prie, tu vas guérir, tu sais, non, c'est parce que tu manques de foi. Et là, dans le fond, ce qu'on... Puis il me regarde, puis il dit, non, non, il disait pas juste des milieux charismatiques, dans nos milieux aussi. Le Seigneur voudrait pas que tu guérisses. Le giton. Et en fait, ce qu'on crée chez la personne, c'est de la culpabilité. Et là, je manque de foi, donc je suis, et à un moment donné, je deviens responsable de ma propre souffrance. Une autre réponse possible, c'est que, il n'y a pas de réponse. On peut pas comprendre. Regarde à Jésus. Oui, c'est correct, là, mais regarde à Jésus sans donner de réponse, ça donne pas de réconfort. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder un psaume, le psaume 88. Raphaël l'a au moins lu pour savoir quelle chanson que je vais faire là-dedans. Et lui-même, à la première lecture du psaume, il a réalisé que, coudonc, il n'y a rien de bon là-dedans. Et en fait, j'ai cherché des prédications sur le psaume 88. Et voici quelques titres que j'ai trouvés de certains prédicateurs. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. Dans la fosse profonde. Vivre dans la fosse. Ou encore simplement, désespoir. Ou encore, le château du géant, désespoir. Cri de noirceur. Ça vous donne une idée du contenu du psaume? Hier, j'étais à Montréal pour un cours de théologie, puis la question de la souffrance a été soulevée. Et puis, je parlais avec un jeune prédicateur aussi, puis il m'en est dans la pause, et puis je dis, ah, ben, dis, regarde, le psaume 88, et je prépare une prédication, demain, je vais prêcher là-dessus, puis il dit, ah, ouais, le psaume 88, ça ne me dit pas grand-chose. Ben, c'est la première réaction que le monde me dit, le psaume 88. Ouais. Ben, il lit ça, puis il me regarde, puis, ah, il dit, ça me fait penser à Lamentation, chapitre 3, ou ben non, à tel autre psaume, ou tel autre psaume, ouais. Tu sais, il y a tout le temps un cri d'espoir, hein? Non, c'est parce que t'as pas lu au complet. En fait, le psaume finit mal. En fait, le psaume ne renferme aucun genre d'espoir. Et là, j'ai... C'est bien trop vrai, ça. Et là, je voyais dans son expression, tu vas dire quoi? Hop, le comité transitoire, je parlais... Ah, ben, je vais prêcher sur le psaume 88. Alors, Will, qui était assis à côté de moi, puis là, avant de commencer notre rencontre, il lit le psaume 88 à voix haute, et là, tout le monde est parti à rire. Là, on me regarde, ils étaient malades. Qu'est-ce que tu vas dire? Et là, c'est devenu une espèce de running gag. Tu sais, psaume 88, et tu sais, ah ouais, tu sais, on ne sait pas quoi dire, ah, souffrance. Pis... Et là, on riait un peu, ils ont réussi à faire des blagues là-dessus, parce qu'ils me trouvent fou un peu, mais. Deux jours après, on a une autre rencontre, puis René il vient nous voir, et puis il nous dit, écoutez mes frères, il dit cette nuit, on a failli perdre Ruben. Vécu une grosse nuit, puis ça n'a pas bien été, on a failli perdre un enfant. Quel âge qu'a René? 2 ans. Et là, je pensais au psaume 88. Il y a eu un crash d'avion. Il y a eu des personnes qui sont décédées. Et le jeune qui est mort, il a mon âge, j'ai travaillé 2 ans avec lui. C'était un de mes amis quand je travaillais au moment Fournier. Il est décédé dans un crash d'avion. Et là, on nous dit que c'est un miracle parce que le père a survécu. Probablement que dans son cœur, ce qu'il vit, c'est exactement le psaume 88. Et à la simple lecture de ce psaume, on sait ce que le psalmiste vit. Aujourd'hui, je n'ai pas de PowerPoint. Parce que je veux que vous preniez ce psaume, parce qu'il nous l'a écrit pour nous. Je veux que vous preniez ce psaume et que vous mettiez votre noirceur, vos troubles dans la lecture de ce psaume. On va le lire. Psaume des fils de Corée. Au chef des chœurs pour Antonin avec la flûte, poème d'Eman, l'Israélite. Éternel Dieu de mon salut, j'écris le jour et pendant la nuit devant toi, que ma prière parvienne à ta présence, tends l'oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans un tombeau, à ceux dont tu n'as plus le souvenir. Et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les bas-fonds. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne peux sortir. Mon œil s'éteint de souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu feras un miracle? Les défunts se lèveront-ils pour te célébrer? Redira-t-on ta bienveillance dans le tombeau, ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de terreur. Je suis troublé. Les ardeurs de ta colère passent sur moi. Tes épouvantes me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. Tu es éloigné de moi, amis et compagnons. Ceux que je connais ne sont que ténèbres. C'est tout. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti en lisant ce psaume? contrarié ou encore troublé que ce psaume soit dans la Bible. Et vous vous dites, coudonc, à quoi que ça sert un psaume de même? On lit ce psaume en se posant la question, pourquoi la souffrance? Beaucoup de personnes vont approcher ce psaume avec la troisième approche que j'ai mentionnée. Ah, ben, il n'y a pas de réponse. Et le psalmiste ne semble pas en trouver. Mais commençons par un survol du texte. Premièrement, on peut diviser le texte au moins en trois sections. Des versets 1 à 9, ce que le psalmiste désire, c'est que Dieu entende sa prière. Et immédiatement, le psaume, on sent qu'il est pesant, qu'il est lourd. Il est dans les bas-fonds au verset 7. C'est pas juste une souffrance qui est physique, mais en même temps, c'est dans son esprit. Et il commence à percevoir que c'est la colère de Dieu qui pèse sur lui. Puis on sent même entendre quasiment le cri de Job, le coudon. Tu sais, je sens bien, pourquoi que ça m'arrive à moi? 10 à 13, et là, il crie, puis il ne reçoit pas de réponse. Et quand on ne reçoit pas de réponse, même notre imagination, on dirait qu'elle amplifie notre désespérance, notre désespoir. Et puis là, ben même, il commence à voir que même dans la mort, c'est désespéré. Et puis là, ben il en arrive à dresser une espèce d'argument de désespoir sur la mort. Versets 14 à 18, enfin, son cri désespéré demeure sans réponse. Toutes ses relations amicales, tout le monde l'abandonne, il se sent seul. Le sujet principal, c'est l'abandon. Il est abandonné même de Dieu. Ou du moins, il semble, il vit, et Dieu ne répond pas. Ça sert un texte comme ça. Il n'y a même pas de conclusion. Il n'y a même pas un semblant de lueur d'espoir en première vue. C'est le psaume le plus noir qu'il y a sur les 150. Il termine de façon directe, il ne semble même pas avoir de conclusion. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, ceux que je connais ne sont que ténèbres. Point. Il semble nous donner aucun espoir, mais d'une façon étrange, c'est justement ça, la bénédiction. Je m'explique. Brian Chappell nous dit ceci. Je trouve qu'il l'exprime très bien. Il nous rappelle que même un écrivain inspiré, un saint si grand que ses paroles sont à jamais enregistrées dans la Bible, même un géant spirituel peut venir à l'ombre d'une montagne pendant un certain temps qui semble occulter la lumière de l'Évangile. Et pourtant, cette foi dans l'ombre ne veut pas dire que l'homme est en dehors du royaume des cieux. Le royaume des cieux est peuplé de ceux qui sont pauvres en esprit. La détresse ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Elle ne signifie pas nécessairement que vous subissez un jugement pour une faute commise. Peut-être que oui, mais peut-être pas. Que je veux voir. Trois points dans le texte que j'aimerais voir. Premièrement, c'est j'aimerais voir l'auteur affirme que derrière sa souffrance, Dieu est l'auteur. Versets 2 à 10. Et ça, on le voit de plusieurs façons dans les versets. Et ce que le psalmiste exprime, c'est qu'il reconnaît que Dieu est au contrôle. Mais il est au contrôle particulièrement de sa situation, de sa souffrance et de son désespoir. Écoutez, verset 7. « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les bas-fonds. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. » Non seulement il ne ressent pas sa présence, mais en plus de ça, il crie à Dieu et il dit « Hey, tu es responsable de ça. » Il reconnaît non seulement qu'il est souverain sur les circonstances, mais en plus que c'est Dieu lui-même qui les a produites. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Alexis Proul racontait qu'il est dans un avion. Alexis Proul est auteur de plusieurs livres sur la souveraineté de Dieu, sur l'élection. Il a participé à plusieurs débats. Il est vraiment reconnu dans le monde pour parler de la sainteté de Dieu, la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Jésus-Christ. Et puis un jour, il est dans un avion et puis là, il est vraiment une grosse orage. Et puis la personne à côté de lui s'est mise à rire de Sproul parce que il est dans le fond de son siège et puis là, il tremble. Puis l'autre est rire de lui puis il dit, « Écoute, c'est toi qui as écrit sur la souveraineté de Dieu. T'arrêtes pas de militer pour la souveraineté de Dieu. Puis toi, t'es là, puis t'es écrasé dans le fond de ton siège. Hey, ça marche pas ton affaire. Les babines suivent pas les bottines. » Mon Dieu, non moins directement. Il dit, non. Et c'est justement parce que j'y crois que je tremble. La souveraineté de Dieu n'exclut jamais les problèmes. Souverain. Oui, l'auteur met beaucoup d'emphase sur ça, mais qu'est-ce que l'on a à comprendre de ça? Au minimum, si on prend une vision plus large, on a à comprendre que Dieu est patient pour recevoir de telles prières. Même si je l'exprime d'une autre façon, Dieu a conservé un psaume aussi noir soit-il parce qu'il désire recevoir nos désespoirs. Oui, il veut des acclamations de joie, de bonheur, d'allégresse, des bénédictions de notre part. Mais en plus de ça, Dieu désire qu'on lui communique nos désespoirs, nos craintes, nos peurs. Le psaume, ce qu'il nous enseigne, c'est ça. On réalise ça. Il n'y a aucune expérience aussi noir soit-il dans nos vies, qui va impressionner Dieu. C'est quasiment réconfortant de savoir que les personnes qui ont écrit la Bible, ils étaient exactement comme nous. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de mettre l'emphase sur notre manque de foi. Au contraire, c'est qu'il est brutalement réaliste et c'est un livre qui s'adresse à nous. La Bible s'adresse à nous dans nos souffrances, dans ce que l'on vit. Dieu est patient pour recevoir de telles prières. Et c'est justement une preuve que Dieu nous connaît et qui inspire des personnes comme ce psalmiste pour exprimer ce que parfois on ressent. Ce qui est encore plus impressionnant. C'est de savoir qui sont les fils de Corée. C'était qui? Les fils de Corée, qui a écrit ce psaume, un des fils de Corée, Éman, l'Israélite, faisait partie d'une famille de Lévites. Et la famille de Lévites s'est divisée en deux. On voit ça dans le livre des Chroniques, chapitre 6 particulièrement. Et une partie de la famille est devenue les gardiens des portes du temple. Mais l'autre partie de la famille, dont Éman qu'on voit ici, eux étaient responsables, sont devenus des musiciens ou des chefs de chœur pour certains, comme Éman qui est ici. Et Éman semble être le fondateur d'une de ces chorales. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce psaume est un chant. Écoutez ça, cantique. Psaume des fils de Corée, au chef des chœurs, la chorale, pour entonner avec flûte. Chantons nos désespoirs. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça, savoir sur quel air ils ont chanté ça. C'est un chant! Pourquoi? Entendu plusieurs choses, entre autres que de venir au repas du Seigneur et de communiquer nos désespoirs, ça c'était pas de l'adoration. J'ai entendu ça. Alors moi, je peux pas chanter parce que je vis des grosses situations difficiles. Alors, je sens que je ne peux pas chanter pour la gloire de Dieu. Alors, je m'abstiens de chanter. Je peux pas vraiment prier parce que ma situation est tellement dure que je me sens pas en règle avec Dieu. Alors, je peux pas. Non. Si je comprends le rôle des fils de Corée, c'est qu'eux, ils chantaient en vue de préparer le peuple à aller adorer au temple. Hélène a dit ceci. Vous comprenez ce que cela signifie? Le Seigneur a voulu que les lamentations les plus sombres soient présentées en même temps que les espoirs les plus brillants. Quand on réalise que c'est un chant de louange, on voit que c'est de l'adoration. Chanter nos désespoirs peut être de l'adoration. Au minimum, ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que ça nous prépare à adorer. Même dans nos épreuves les plus sombres, je peux crier à Dieu. Deuxième point. Versets 11 à 13. On voit que l'auteur tire un argument à partir de notre finalité, la mort. Verset 11 à 13. Est-ce pour les morts que tu feras un miracle? Les défunts se lèveront-ils pour te célébrer? Redira-t-on ta bienveillance dans le tombeau, ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Même la mort est pesant. Même après, ça semble avoir rien. L'argument qu'il tire, je l'ai appelé comme ça, c'est un argument tiré de la finalité et de l'espérance de la résurrection. Je le sais, le mot « résurrection » n'est pas dans le texte. Mais quand même, remarquez ce que l'auteur nous dit. Verset 11. « Est-ce pour les morts que tu feras un miracle, les défunts se lèveront-ils pour te célébrer? » La plupart des Juifs de cette époque croyaient en la résurrection. Ou du moins, c'était une espérance. Et de façon ironique, regardez la méthode de l'auteur. La méthode de l'auteur dans ce psaume, c'est d'exprimer un désespoir en disant tout ce qui est contraire à l'espoir. C'est en quelque sorte l'ironie. Il dit exactement le contraire. Je veux justement me relever après ma mort pour pouvoir te célébrer. C'est mon espérance, mais en même temps, lui, sa fausse est tellement profonde qu'il dit de façon négative. Mais l'espérance, c'est qu'un jour, je vais pouvoir te célébrer. C'est justement ce que je veux. L'espérance du chrétien n'est pas seulement que, après ma mort, mon âme va être avec le Seigneur. Mais mon espérance, c'est qu'un jour, corps et âme vont ressusciter pour l'éternité dans un corps qui est transformé. Et là, je vais pouvoir célébrer pour l'éternité la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Le psalmiste n'a pas toutes les informations qu'on a. Il écrit 1000 ans avant, à peu près, le Nouveau Testament. Et ça, c'est détaillé dans le Nouveau Testament. Mais ici, on voit un germe de cette espérance future de la résurrection. Prime de façon ironique. Parce que dans le fond, notre espérance n'est pas ici-bas sur terre, parce qu'on va toujours être déçu. Toujours. C.S. Lewis a dit ceci, « Si je découvre en moi-même un désir qu'aucune expérience ici-bas ne saurait satisfaire, l'explication plausible serait que j'ai été créé en vue d'un autre monde. » Tiens, désir un autre monde, parce qu'il n'est pas en paix avec ce monde. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas. Des fois, je me sens bien sur terre, puis j'aime ça. Puis cette semaine, le crash de l'avion, Ruben, puis tu sais, là, on voit tout ça, puis c'est comme... Non. Il manque de quoi? Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Et mon espérance commence à se porter vers d'autres choses, vers un nouveau ciel. point. L'auteur n'a pas de réponse et ne conclut pas. C'est un psaume sans conclusion. Néanmoins, elle a un message pour nous. Une autre chose qui est enseignée, que ce psaume nous enseigne, c'est qu'un chrétien ne peut justement être jamais en paix avec la souffrance. Nous savons que le péché est entré dans le monde. Détruit. Le psaume ne finit pas parce que le psalmiste continue à persévérer. Il nous invite à la franchise de ce qu'il ressent et non pas juste de la situation dans laquelle il se trouve. Puis avez-vous remarqué que souvent, nos prières sont empreintes de nos situations? Et ce psaume, à mon sens, est un défi pour nos prières. Ah, Jean-Luc, c'est quoi tes requêtes de prière? Ah, écoute, c'est un site au travail, j'ai telle chose. Ah, c'est pas facile, là, tantôt quelqu'un m'a rencontré, puis il m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu saches que des personnes disent telle chose de toi. Bon, cette semaine, j'ai reçu des courriels, il y en a qui sont pas d'accord avec telle chose. Tu sais, on souhaite tout ça, puis là, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je prie? Ah, ben, prie pour telle situation, prie pour telle chose. Et là, je repense à ce psaume. Non, prie parce que je sens que mon cœur est en train de devenir dur. Là, de l'amertume. Ça commence à plus voir dans les circonstances où ce que t'es. Seigneur, viens-moi en aide parce que là, ça ne marche pas. Seigneur, je ne sais même pas quoi te dire, mais faites quoi? Et là, ça commence à être un défi de prier d'une autre façon. Et cette semaine, je veux vous relever le défi de prendre un temps en silence. Prenez une pièce et criez à Dieu sur ce que vous ressentez. C'est ce que le psalmiste fait. Au-delà de votre situation, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tomber dans une émotion là, sans intelligence. Justement, en amenant ce côté-là, on va peut-être éviter d'être tellement intellectuel dans nos façons de faire qu'on oublie nos émotions. Et le Seigneur nous dit, « Hey, je veux les deux. » Et il y a un équilibre là-dedans. Mais quand est-ce qu'on crie à Dieu? Avez-vous déjà tombé à genoux dans votre bain, dans votre douche, en disant, « Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, je ne file pas. » Faites quoi? Dès qu'on communique ce genre de tourment, puis le conserver dans la Bible pour nous, parce que c'est ce que ça nous enseigne. De persévérance dans la prière. Il prie avec foi. Il espère en Dieu avec persévérance dans l'épreuve. On ne peut jamais dissocier la foi puis l'espérance, puis la persévérance. C'est toujours ensemble. La foi espère. Et le psalmiste nous le démontre, ça ne finit pas. Il continue à parler à Dieu. Et espérance. Or, de rencontrer des personnes qui nous disent, peut-être que vous avez déjà, moi j'ai déjà entendu ça, ce genre de réflexion. C'est important d'avoir de l'espoir et Jésus, c'est bon pour toi. Ouais, moi, je crois en l'amour, en la vie. Mohamed. Ah, pour toi, Jésus, c'est bien. Moi, je crois qu'on vient d'un singe. C'est bien, Jésus. Puis, la foi a une espèce d'espérance aveugle. Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Assurance et démonstration riment, viennent ensemble avec l'espérance et la foi. Je ne veux pas mettre ma foi dans quelque chose qui pourrait être faux. Je ne veux pas mettre la foi dans quelque chose qui pourrait être faux ou qui est faux. Je mets mon espérance dans mes désirs parce que je pourrais me tromper. titre, c'est « L'espérance existe-t-elle dans la souffrance? » J'aurais dû l'appeler « La véritable espérance existe-t-elle dans les temps difficiles? » L'espérance qui n'est pas vraie, ça ne donne rien. Dans ce genre de réflexion-là, c'est qu'on risque de dissocier l'espérance de la vérité. J'ai fait un cours sur le bouddhisme avec l'Université Laval et j'ai reçu des critiques, je suis habitué, professeur, parce que j'avais démoli le bouddhisme, mais j'ai démontré que le bouddhisme, dans leur démonstration de l'espérance, renie la vérité. Et la critique qu'on m'a fait, c'est « Oui, je comprends qu'il y a des arguments et puis tout ça, mais il faut que tu essaies de voir ça selon l'œil du bouddhiste. Faut que tu te mettes dans leur culotte, faut que tu te mettes dans leur vision pour pouvoir voir ce que eux... Ouais, mais c'est parce que si c'est faux, ça donne rien. » Et tu m'as demandé une analyse, je l'ai analysée, c'est faux. Et j'ai accepté un mauvais résultat parce que j'ai pas eu... Il m'a fait passer, là, mais... Je veux mettre mon espérance en quelque chose qui peut être faux. J'ai besoin de la vérité. La vérité est le fondement de mon espérance. La véritable espérance dans la souffrance existe-t-elle? Et j'aimerais souligner dans ce psaume le seul bout de phrase qui est positif. Verset 2, « Éternel Dieu de mon salut ». C'est le seul. La psaume analyse sa souffrance dans le monde de Dieu. Il n'analyse pas sa souffrance dans un monde qui est dépourvu de Dieu. Le psalmiste voit le monde dans la perspective de Dieu. Et si on l'analyse en dehors de ça, on risque de se tromper puis de trouver seulement du désespoir. Ou un réconfort momentané du moment qu'il faut toujours renouveler parce que ce n'est pas un véritable espoir. Il faut toujours se rappeler notre méthode. Avez-vous remarqué la psychologie? On dirait que ça finit jamais. Tu sais, ben, tu culpabilises pour telle chose, tu manques d'espoir. Ben, essaye telle chose. OK, ça marche 2 semaines, là, ils reviennent. Tu sais, puis ils reviennent. Non, non. Pas ça le christianisme. C'est une vie. C'est une espérance vivante, présente qu'on a. La souffrance, malgré la grandeur de l'opprobre, il cherche à s'approcher de Dieu. Pourquoi le psalmiste? Parce qu'il crie à Dieu, il veut s'approcher de Dieu, il demande une réponse. Pourquoi? Même s'il n'en trouve pas. Alors, exprimé en ces termes, le psalmiste vit dans le présent, malgré l'opprobre et les circonstances vraiment pénibles, le psalmiste vit dans le présent une espérance future rendue possible à cause du passé. Je m'explique. Les conditions présentes du psalmiste, et peut-être la vôtre, espérer dans le futur. On peut avoir un espoir dans le futur seulement sur quelque chose qui est vrai, qui s'est fait dans le passé. Parce que ça, c'est ma base, c'est mon fondement. Parce que je ne regarde pas en arrière, je suis basé sur quoi? Sur mes circonstances. Si je regarde seulement vers l'avant, c'est une utopie. J'ai rien de solide, j'ai rien de concret. Là, la technologie va, tu sais, ben on va tout le temps regarder en avant. Même l'argument principal de Charles Darwin dans son livre « Origine des espèces », par exemple, dans 100 ans, on va avoir la technologie pour pouvoir démontrer ce que je dis. Même lui, je regarde, mais c'est une utopie. Base sur le passé. Quand on a une solide base, là, après ça, on peut construire sur le présent dans un espoir futur. Et ça, c'est partout dans la Bible. D'ailleurs, la définition d'espoir, c'est comme ceci. L'espoir, état d'attente confiante. L'espérance est une vertu selon laquelle nous attendons la grâce de Dieu. L'espérance chrétienne inclut toujours l'espérance de voir et savourer Dieu lui-même, de savourer Christ lui-même. Et quand on parle du futur, je ne parle pas juste d'après notre mort. Dans 15 secondes, là, dans 1, 2, 3, dans 15 secondes, c'est futur. Je m'attends à la grâce de Dieu. Moment après moment, j'espère voir la grâce de Dieu. Ultimement, j'espère voir, après ma mort, la grâce de Dieu pour l'éternité. Possible à cause du passé. Qu'est-ce que le psalmiste vit qui lui fait donner ce fondement d'espérance pour pouvoir regarder au futur? Il le dit, Dieu de mon salut. Ce qu'il a vécu, c'est le salut de Dieu. Il sait que Dieu s'est révélé dans l'histoire. Il s'est révélé dans le passé. Pour lui, le psalmiste, c'était Moïse. C'était les révélations qu'on voit dans la Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans l'Exode. C'est ça qu'il a comme révélation. Certains prophètes qui sont là aussi. Et c'est la base. Et il sait que Dieu peut le sortir. Il sait qu'il a sorti le peuple. Il sait les promesses qu'il a faites. Il sait. Dieu a agi. Dieu sauve. Exclame. Voilà notre fondement. On peut trouver un sens seulement si Dieu est au centre de cette histoire. Sinon, c'est une utopie. Sinon, c'est l'existentialiste froid. Je vis pour le moment présent. Tu sais, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Il n'y a pas d'espoir. Et si on fait seulement regarder vers le passé, bien là, on devient traditionnaliste. Le passé, tradition. Et là, ça devient froid. Et là, c'est même plus un fondement, ça devient un mode de vie. Tradition. Non. Écoutez ce que Jésus il dit, parce que Jésus nous laisse ce modèle. L'espérance, on vit dans les circonstances basées sur le passé, dans l'espérance future. Écoutez ce que Jésus dit. Car toutes les fois que vous buvez cette coupe et que vous mangez ce pain présentement, vous annoncez la mort dans le passé du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne dans le futur. Toute l'histoire peut trouver un sens si Dieu est au centre de cette histoire, de votre histoire. Payer physiquement, dans l'histoire, porter nos péchés, rendus vivants. Quand je travaillais à l'école de police, je parlais avec la personne que je covoiturais, puis... On était à la semaine de Pâques et je lui ai dit, pour moi, Pâques, c'est la fête qu'on devrait fêter dans toute l'année. C'est celle-là. C'est pas Noël. C'est pas. Pour moi, c'est. Ben, d'ailleurs, ça fait partie un peu de ma conversion. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui était important pour moi. Mais il dit, pourquoi? Parce que si Jésus est vivant, j'ai une réelle espérance. J'ai donné 18 arguments pour qu'ils comprennent que si Jésus est vivant, je suis dans le trouble. Mais pour nous. C'est notre espérance. Un des trois points que j'ai voulu regarder dans ce message, c'est que l'espérance est en Dieu à cause de qui il est. Un Dieu de promesses qui a agi, qui nous donne un fondement sur lequel on peut se reposer. Deuxièmement, c'est que l'espérance est dans la résurrection parce qu'il l'a démontré premièrement en venant lui-même et en ressuscitant premièrement pour nous amener avec lui. Et troisièmement, la foi espère avec persévérance. C'est un psaume sans conclusion, sans réponse immédiate, qui nous invite, nous autres mêmes, de persévérer dans la prière. Dieu voulait à la fois des désespoirs et de nos joies. Approcher de Dieu en cas de doute, c'est un acte de foi. Oui, il me fait toujours rire. Ah, tu sais, là, lui, c'est parce qu'il vivait vraiment des circonstances difficiles. Lui, le christianisme l'a vraiment aidé pour lui, parce qu'il souffrait. Ah oui, lui, c'est sûr, c'était facile. Il avait une faiblesse psychologique, alors il s'est converti. Non. Si c'était si facile que ça, convertis-toi toi-même. Tu sais, je veux dire, si c'est si facile que ça, c'est extrêmement difficile dans les circonstances de se convertir. Pourquoi? Parce que les circonstances nous amènent naturellement à regarder vers nous-mêmes. Ça va pas bien, j'aime pas ça, je regarde vers moi. C'est pas une tendance naturelle que j'ai à regarder vers Dieu. Et dans ce genre de réflexion, tu me démontres exactement que tu t'approches pas de Dieu naturellement et facilement. de Dieu dans les doutes, les craintes, nos manquements, mes peurs, c'est un acte de foi. Mais de ce côté-ci de la croix, on a beaucoup plus d'informations que le psalmiste pouvait en avoir. Et je vais terminer avec la lecture d'un court texte que j'ai fait pour cette prédication qui illustre, je pense, en partie l'essence du christianisme, de notre espérance dans ces cas-là, et qui illustre en même temps les points qu'on a regardés dans le psaume 88. Et je vous invite à fermer les yeux, à le prendre comme une prière, mais essayez dans votre imagination de voir le portrait que j'essaie de vous dresser, qui se trouve à être Jésus qui dialogue avec nous. Et je vais lire le texte. Dans le jardin de Gethsémané. L'eau éclate en grumeaux de sang. L'angoisse et la lutte m'envahissent. Je sais que c'est ta volonté, mais Père, s'il y avait un autre moyen, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Raillé, couronné d'épines, flagellé, frappé, les ténèbres m'entourent. Cloué sur un morceau de bois, élevé entre ciel et terre, ridiculisé, blasphémé. L'agonie est à son comble pour simplement respirer. Si le psaume de David, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Naturellement, nous pouvons penser qu'il a perdu confiance en Dieu. Il crie à Dieu et il ne répond pas. Voir si Dieu va venir à son aide. Descends de cette croix. Il crie à Dieu justement parce qu'il a confiance en lui. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il sait où il va. Il sait qu'il est là pour moi et pour toi. Mais ridiculisé, on lui a crié en riant, « Toi qui as guéri les malades, sauve-toi toi-même! » Mais la réponse du roi de l'univers, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a mes péchés. Dans son amour, il s'est humilié. Dans sa sainteté, il a été juste. Il a subi la colère qui m'était destinée. Dans son amour, il a pris ma place, tout accompli, expirant de lui-même, on le descend dans un tombeau. Toutes les personnes qui étaient près de lui sont dévastées. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Il est sorti du tombeau. Voilà ton espérance, la mort même ne peut le retenir. Il a dit, « Je suis la vie, la résurrection, crois-tu cela? Parce qu'en croyant, tu vivras. » Crois que j'ai fait cela pour toi. Et simplement, il prend un pain, il rompt, et il dit, ceci est mon corps livré puis brisé pour vous. Mangez-en. De même, il prit une coupe et il dit, ceci est mon sang. Buvez-en tous, car en faisant cela, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Peut-être que vous êtes dans une fosse, la dépression, un trou qui te semble insurmontable. Dieu te dit, je te comprends. Je te vois. Confie-toi en moi. Oui, capable. Prouve-moi que c'est bon pour moi. Crainte au-dedans, lutte en dehors. Qui va me sauver de ce corps de mort? Je suis perdu, les ténèbres m'environnent. Mon enfant, je suis allé, moi aussi. Plus profond que tu peux même l'imaginer. Et sais-tu quoi? Je suis revenu à la vie pour te prendre avec moi et pour prendre tous ceux qui se confient en moi, tous ceux qui mettent leur confiance en moi, tous ceux qui espèrent en moi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas sans réponse, c'est pour un poids éternel de gloire à mes côtés. Tu peux maintenant voir et savourer que Jésus est bon. Crois-moi. L'essence même de la foi. Parce que la foi espère en moi. Seigneur, merci pour cette foi qui espère Merci pour l'assurance qu'on a que Jésus est venu mourir et ressusciter. Merci pour cette promesse que tu nous dis que tu vas nous ressusciter avec toi. Merci pour cette espérance même qu'on a dans notre vie d'attendre ta grâce dans nos désespoirs. Ce psaume pointe vers la persévérance. Merci pour ce psaume qui nous enseigne, qui m'enseigne à m'approcher de toi avec humilité. Merci pour ce psaume qui m'enseigne, pas indifférent, que tu es là et qu'un jour tu répondras. Gloire. Amen.